Bonsoir, bienvenue sur les antennes de la Grenouille. Ce soir, pour accompagner la semaine versus Sarajevo-Marseille, nous sommes tous assis autour d'une table, il y a beaucoup de monde d'ailleurs, pour parler de la culture en Bosnie-Herzégovine. Je vous rappelle que cet événement a débuté lundi, qu'il se poursuivra jusqu'à samedi. Vous pouvez découvrir des documentaires, des films courts ou longs, des expositions, ainsi qu'assister à des rencontres. Ça se passe entre la bibliothèque de l'Alcazar à Marseille, le cinéma Les Variétés, le cabaret aléatoire à la Friche Belle de Mai, c'est ce soir d'ailleurs, ainsi que sur les ondes de la Grenouille, où nous vous proposons toute la semaine une petite série d'émissions réalisées à Sarajevo par des réalisateurs indépendants ou alors par une radio sur place à Sarajevo avec qui nous sommes en relation, Radio 202. Où en est la culture aujourd'hui à Sarajevo? Pas qu'à Sarajevo d'ailleurs, puisque nous allons parler pas mal ce soir de Mostar. Que se passe-t-il dans le monde de la création bosniaque? Musicien, photographe, réalisateur de films longs ou courts, les artistes plasticiens, les écrivains, comment vivent-ils cet après-guerre, 10 ans après les accords de Dayton? C'était, rappelons-le, le 21 novembre 1995. Et peut-être une question aussi, qui s'intéresse à eux aujourd'hui? Nous parlerons aussi des structures de production, de diffusion dans tous les domaines, ainsi que des médias, écrits, télé, radio. Comment s'inscrivent-ils dans cette reconstruction? Je suis sûr qu'il sera difficile de ne pas parler de Turbo Folk, évidemment, puisque cela fait partie inévitablement du paysage culturel en Bosnie. Beaucoup de sujets donc à aborder pendant cette heure jusqu'à 19h. En tout cas, nous essayerons de répondre à quelques-unes de ces questions. Autour de cette table ce soir, en direct sur E3-8, plusieurs invités vont nous éclairer sur cette situation culturelle bosniaque. Il y a d'abord, et c'est avec toi que je vais commencer, Stéphane Mogino. Tu es à l'origine de cette semaine versus Sarajevo-Marseille. Avant d'attaquer, est-ce que tu peux recadrer un peu cette semaine, nous raconter un peu comment elle s'est mise en place, pourquoi tu as tenu à célébrer cet événement avec cette programmation à Marseille?
Célébrer, c'est vrai que c'est pas un terme que j'utilise souvent quand on parle de tout ça, mais il se trouve que moi j'étais là-bas la première fois il y a un peu plus de 2 ans et que j'ai rencontré pas mal de gens du milieu de la culture, Sarajevo, que ce soit des éditeurs, des producteurs, des collectifs d'artistes, des opérateurs culturels, des journalistes, etc. Et que j'ai eu l'occasion d'y revenir, de créer des relations, des attaches, des amitiés là-bas et de découvrir une scène artistique pour le moins très intéressante. Et par mes activités habituelles ici, il me semblait être un prolongement naturel que de les ramener, d'en ramener une partie pour que les Français puissent s'y intéresser, en tout cas les découvrir, parce que c'est un des gros problèmes là-bas. Il y a une scène artistique qui existe. Par contre, on dirait que leur musique ne passe pas les frontières, par exemple, et c'est très dommage. Donc on a d'abord travaillé dans l'autre sens, c'est-à-dire essayer d'emmener des DJ, musiciens, plasticiens, VJ par exemple, à Sarajevo, à Mostar ou Banja Luka. Et maintenant, c'est le tour des gens de Bosnie-Herzégovine de venir faire un tour en France et de découvrir les multiples aspects de leur travail artistique.
Donc, toute cette semaine, il va y avoir des concerts, hein, des diffusions de courts-métrages. Mmh. Adeline va nous en parler, puisque c'est toi, entre autres, qui as fait cette programmation.
Donc, en fait, ça a commencé déjà lundi.
Voilà.
Puisque toute la semaine, donc, Grenouille bouscule ses programmes pour accueillir des programmes de 202 et des programmes spéciaux. Que mardi, il y a eu le film de Jean-Luc Godard, Notre musique, qui a été tourné à Sarajevo il y a 2 ans et présenté à Cannes l'année dernière. Et donc, comme tu viens de le dire, 2 cycles de courts-métrages, une rétrospective de 10 ans de courts-métrages issus des pays de l'ex-Yougoslavie. Adeline, tu me diras si je me trompe, qui sera présentée ce soir à 20h au cabaret aléatoire. Et 1h30 de programme également, vendredi, donc demain, à l'Alcazar, avec les lauréats et sélections du Festival de courts-métrages de Mostar. Voilà. Et on finira donc samedi avec Grenouille qui sera là en plateau direct depuis l'Alcazar avec une thématique qu'on a appelée Regards croisés, où des journalistes, des opérateurs culturels et des artistes vont échanger leur point de vue sur donc c'est cette question de Sarajevo aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, quel avenir dans les Balkans, et avec quand même un invité très intéressant puisqu'il s'agit de Paul Garde, qui est quand même le spécialiste des Balkans.
Le spécialiste, ouais. Merci beaucoup Stéphane Mogino. Je vais finir de présenter tous les invités qu'il y a autour de ce plateau, et il y en a beaucoup. Dubioza Collective est là, c'est il faut que je retrouve Vedran et Almir du collectif Dubioza Collective, membres de ce groupe. Vous venez de Sarajevo, vous jouez ce soir à la Friche Belle de Mai. C'est la première fois que vous jouez en France et peut-être c'est le début d'une série. En tout cas, vous aimeriez bien, puisque c'est pas facile d'entrer, de passer les frontières pour jouer, que ce soit en France, en Angleterre. Tu le disais tout à l'heure, Stéphane. Une scène intéressante en Bosnie, mais qui a du mal à s'exporter dans le reste de l'Europe. Stanislav Demidjuk peut-être arrivera, écrivain, on verra, il est invité en tout cas. Peut-être nous écoute-t-il sur son poste dans sa voiture. Stanislav, nous t'attendons si jamais. Adeline Rébon, vous êtes française, vous organisez un festival de courts-métrages à Mostar depuis 4 ans. Bonsoir.
Bonsoir.
Et vous proposez une sélection de films, comme on disait tout à l'heure, qu'on va voir ce soir pour commencer à la Friche.
Ouais.
Voilà. Sylvain Boulmer, Arnaud Fromont et Charlie Korowski. Bonsoir. Vous êtes marseillais, vous êtes membre du groupe Ducky Dub. Vous êtes allé plusieurs fois jouer en Bosnie, que ce soit Mostar, Sarajevo, je ne sais pas si vous y avez été joué aussi.
Oui, à Banja Luka, Prijedor aussi, qui sont des villes de République serbe de Bosnie ou en Bosnie-Herzégovine, donc plusieurs endroits en Bosnie, en ex-Yougoslavie en général, mais aussi en Bosnie-Herzégovine.
Et ensuite, Vincent Delpech de Radio Zinzine. Bonsoir Vincent, dans son coin, qui va nous rejoindre tout à l'heure. Alors Vincent, tu montes un projet culturel à Mostar, un Media Center. Tu as réalisé un documentaire sonore qui est d'ailleurs diffusé sur les antennes de la Grenouille. Bonsoir tout le monde, bienvenue. On va commencer pour écouter un morceau du groupe Dubioza Collectif. Ici avec nous ce soir, on les retrouve juste après. Ce morceau s'appelle Bosnian Rastafarian.
Yes, man, the Bosnian Rastafari in the middle of the countries, man. The heart of the Bosnian Rastafari, yeah. Rhythm of full of culture, yeah. Yes, man. Feel it. Consciousness. Yes, man, okay. Yes, yes. What you gonna do, come on the ragamon style it. Dibbly wanna trick him with the Bosnian file it. I wanna try to kid, I wanna try to lit. I wanna try to lit now, yes. Roll it that shit, I smoke it that shit. Yeah, the roll it that shit, I smoke it that shit. Yeah, the roll it that shit, I smoke it that shit. Yeah, the roll it that shit. Bosnian. We'll be right back.
C'est Dubioza Collectif que l'on écoutait à l'instant et que l'on retrouve tout de suite d'ailleurs. Je précise que la traduction va se faire par Dany. Bonsoir Dany, merci beaucoup. Dany et Mirsad, pardon. Mirsad, pour commencer, bonsoir. Merci beaucoup d'être là pour nous aider. Bonsoir Vedran et Almir.
Hi. Bonsoir.
Hi. Dubioza Collectif, donc, ça existe depuis combien d'années?
Koliko godina postoji ta vaša grupa?
Pa ne tako dugo, dvije godine. Znači dvije godine
postoji. Autour de deux ans.
Ok. Vous vous produisez en Bosnie, mais vous allez outre frontière, surtout en Europe centrale, je crois.
Vi pjevate dosta u Bosni, ali reklo bi se da izlazite napolje iz Bosne, u kojim zemljama, centralne Evrope ili nekim drugim zemljama?
Aha, pa onako mi smo ove godine ispunili plan koji smo sebi zacrtali da budemo u centralnoj Evropi sada trenutno prisutni.
Cette année ils ont eu un projet pour l'instant l'Europe centrale et ils ont bien accompli.
Da smo svirali u zemljama bivše Jugoslavije, Češkoj, Slovačkoj, Sloveniji.
Ils ont joué beaucoup dans les états de l'ex-Yougoslavie, style Slovénie, Croatie, ainsi que d'autres pays de l'Europe centrale comme Tchéquie, Slovaquie, Hongrie et d'autres pays voisines.
Et aujourd'hui, c'est le premier concert en France.
Ce soir, c'est leur premier concert en France, ils sont très contents.
Et vous aimeriez bien venir plus souvent en France, en fait.
Da li biste želeli više da dolazite u Francusku?
Da, naravno.
C'est une logique.
Et alors, qu'est-ce qui empêche?
Šta vas sprečava u tome?
Za početak, vizni režim.
Vous avez compris par rapport à l'expression que avant tout, c'est tout ce qui est régime... politique, les visas, tout ça, donc c'est très difficile. Parce qu'ils sont déçus qu'il leur faut pour le monde entier un visa, sauf trois pays. Croatie, Serbie et Cuba.
Još pa ne, sam. Malaysia.
Malaysia, mais bon, c'est quand même...
But like five, zemalja.
En tout, il y a cinq états qui sont autorisés à sortir sans visa. Et à préciser, je voudrais juste préciser, étant d'origine yougoslave, que c'est pas très difficile, c'est impossible. D'obtenir un visa pour quel pays que ce soit.
Il faut des invitations, il faut que ce soit dans un cadre très précis.
Même. Vous avez, admettons, une garantie de quelqu'un qui habite en France, dans tous les sens, que ce soit hébergement, tout, et même si vous avez un travail, l'école, des études en Bosnie, pardon. Eh bien, les ambassades ne nous donnent pas aussi facilement des visas comme ça.
Vrh ledenog brijega, jer mislim, osim viznog režima, tu je nedostatak, uopšte nepostojanje muzičke industrije i onda nedostatak podrške institucija, vlasti, o nekom kulturnom...
Alors, vous voyez la montagne que c'est le visa? Eh bien, imaginez que pour le reste, admettons tout ce qui est au niveau culturel et surtout les maisons de disques et tout ça, c'est tout été détruit, ça n'existe quasiment plus. N'oubliez non plus les côtés politiques, aucun soutien au niveau gouvernemental, rien. D'après ce que je comprends après leur explication, c'est vraiment, ils sont dans un trou profond.
Est-ce que vous en parlez dans vos chansons de tout ça?
Dans les vies où vous avez pièce, vous avez parlé de tout, mais tout est choqué.
Malte, c'est un peu de temps, mais c'est un peu de temps.
Il voudrait dire que entre tout, dans leurs chansons, c'est quasiment de ça qu'il parle.
Bar na to se koncentrisan dosadašnji tekstovi, a cijeli album je spreman za neku vrstu revolucije umjetnosti u Bosni i Hercegovini, mislim, podsticaj taj neki ono verbalni ljude na, na, na nešto, tako okay. da se nešto promijeni.
Jusqu'à présent, leurs albums sont concentrés exclusivement de ça, de cette différence, et il est prêt à exploser à vers une révolution que ça change, quoi, parce que s'ils peuvent pas faire autrement, c'est minimum par leur musique qui voudrait révolutionner tout yeah. ça.
Pardon, jer ima dosta stvarno toga što je kolega govorio, ono, dosta ima potencijala i šteta da se to guši nekim banalnim stvarima koje, mislim, ono, ne bi trebalo uopšte da postoji. Kao na prvo, ne postoji nikakvih neovisnih organizacija, institucija koje pomogle na šta.
Eh bien, vous savez déjà qu'avant la guerre, que la Yougoslavie était connue au niveau culturel et artistique, mm-hmm. eh bien, il voudrait accentuer là-dessus qu'un potentiel y existe énorme et que c'est vraiment dommage d'enfermer tout ça dans un contexte politique ou quoi que ce soit. Enfin, il voudrait quand même créer une explosion avec ses chansons que le monde entier l'aide, quoi.
Et est-ce que les sortir. Autres, est-ce que les habitants de Sarajevo, de Mostar, les Bosniaques, les Croates, les Serbes, est-ce qu'ils veulent ça? Dans vous avez été joué en Serbie, par exemple, ça s'est pas trop bien passé, pardon, je crois, ce que vous m'avez dit.
Dans les ostali, žitelji Bosne i Hercegovine, na primjer Sarajeva i drugih gradova, žele to da izjasne, na primjer, drugim sredstvima, vi, na primjer, muzikom, drugi ostalim. Vi ste, na primjer, išli u Srbiji, držali ste jedan koncert na kojem se nije baš dogodilo kako treba, to sam valjda shvatio šta je htio da kaže. Šta vi mislite, da li ostala raja žele tu eksploziju ili je
samo... Pa, Bosna je u okviru bivše Jugoslavije bila u poprilično podređenom položaju i kulturno i ekonomski, tako da je ono, sad ta situacija poprilično jasno preslikava, mislim, i poslije rata.
La Bosnie-Herzégovine, même avant la guerre, était sous-évoluée par rapport à leur potentiel, que ce soit culturel mmh. ou autre. Et ils estiment que même après la guerre, ben, ça continue de... Je comprends qu'on n'a pas envie de leur prêter attention. Parce qu'on les prend pas vraiment au sérieux.
Le partage a été fait, il y a des frontières qui ont été faites, donc ça a même accentué, on peut le dire.
Granice su napravljene državne, tako reći. I vi mislite, iako su napravljene te državne granice, Bosna i Hercegovina se ne priznaje tako kako bi trebalo.
Da, pa mislim, imamo bizarnu političku situaciju totalno gdje je zemlja podijeljena na ono milion administrativnih jedinica koje od kojih dio, nažalost, sa većinskim srpskim hrvatskim snišom gravitira i jako je mnogo okay. Uticaj, znači vrši se iz Srbije i Hrvatske na njih. Tako da oni radi protiv BiH.
Tout à fait. Si vous voulez, les frontières sont faites d'une manière... entre guillemets, l'État souverain, mais la Constitution est faite vraiment bizarre, d'une manière bizarre, parce que vous avez des millions de petites constitutions qui dépendent de certaines de Serbie, d'autres de Croatie, et d'après eux,
mnogi ne doživljavaju Bosnu kao svoju zemlju.
Voilà. Il y en a beaucoup qui se sentent pas comme
qui sont pas représentés dans leur état. Oui, bien sûr.
C'est il y en a qui se ressentent serbes même s'ils sont en Bosnie, ben ils pensent que la Serbie c'est leur pays, d'autres que c'est les Croates. Donc il y a trop d'influence externe et qui nuit beaucoup en développement de l'état bosniaque.
Donc vous dites quoi, vous êtes bosnien?
Vi ste, šta vi kažete, vi ste bosanci?
Da, mi smo bosanci. Ne postoji zavrzlama tu cijela priča.
Da ne bude onaj komplikovano.
Da, zato što sada dio bosanske populacije muslimana zovu bošnjacima.
Ja vas razumijem, bosnijak. Zato što sam isto
da, situaciji. Pa, mislim, pokušajmo objasniti samo bosnijak and bosnijan. Tu razliku, bosanac i bošnjak. Samo pokušaj to objasniti.
Oni se smatraju bosanci, da se ne smatraju bosanci.
Merci.
Pardon, excusez-moi. Je suis prêt dans le jeu, excusez-moi, c'est la première fois que je traduis. Eux, ils se ressentent... Enfin, ils se sentent bosniaques, bien sûr, comme pays. Mm-hmm. Par contre, il y a des, admettons, des musulmans de Bosnie, ils se ressentent... Enfin, il y a un nouveau mot qui s'appelle bosnien qui précise que les musulmans bosniaques et qui nuit aussi à ce développement ensemble. Vous voyez ce que je veux dire?
Adeline, voilà.
Bosnien, ça correspond à tous les citoyens de Bosnie-Herzégovine qui soient de culture ou de communauté croate ou musulmane ou serbe. Il y a un mot nouveau, on dit bosniak, qui a été inventé en quelque sorte, parce que bon, y a énormément de Croates qui s'appellent bosniak, mais il y a un nouveau mot qui a été inventé, on dit bosniak pour les bosniaks d'origine communautaire musulmane. Et ça correspond en français à bosnien et bosniak en fait.
On vous retrouve tout à l'heure, je précise, hein, je rappelle que vous jouez ce soir au cabaret aléatoire à 21h. Sylvain, Arnaud et Charlie, vous êtes allés souvent jouer là-bas, vous connaissez les membres du groupe du Bioza Collective, vous étiez déjà croisés ?
Non. Je crois qu'ils sont de Sarajevo, nous on connaît plutôt des gens Mostar, mais...
Qu'est-ce que, quand vous allez jouer là-bas, vous êtes en rapport avec qui ? Comment vous êtes connecté avec la Bosnie ? Et par rapport à ce qu'ils ont dit, là, est-ce que ça vous fait penser à des choses que vous avez rencontrées là-bas ?
Ouais, forcément. Alors pour l'historique des relations d'Akidub avec l'ex-Yougoslavie, en fait, on a été à un festival qui s'appelle le Festival Interculturel de Mostar et en 2001. Et puis on avait décidé d'y retourner avec Charlie, c'est les deux membres à l'époque qui avaient fait cette aventure-là, d'y retourner d'une autre manière, un peu plus longtemps, un peu de manière plus étendue aussi. Mm-hmm. Et donc on a gardé des liens. Après, moi j'ai été en septembre, là, octobre de l'année dernière, où j'ai rencontré les gens du MIFOC, des gens peut-être dont Adèle parlera, des structures associatives qui sont là-bas. On a rencontré un gars qui s'appelle Dragan Vukovic et on a travaillé en lien pour s'organiser une tournée dans les 5 pays, voire 6 pays de l'ex-Yougoslavie. Et donc ça s'est fait de manière très empirique, sans structure institutionnelle ou quoi.
Voilà, là, c'est pas avec l'ambassade de France,
non,
par
non,
exemple.
Non. On a eu une date comme ça, deux dates avec l'Institut français, mais sinon, sur les 16 ou 17 concerts qu'on a fait, c'était des trucs privés, quoi, des clubs ou des.
Comment vous avez ressenti, vous, ça, ces identités culturelles qui. Pour certains qui veulent se rassembler, pour les autres qui veulent mettre bien les séparations et les frontières.
C'est plusieurs, tu peux le faire à plusieurs niveaux en fait. Tu peux le faire d'un niveau intellectuel, informatif, en lisant, etc. Puis aussi quand tu te balades, c'est des visions quoi. C'est des visions par exemple en Bosnie-Herzégovine, qui a un drapeau, il me semble. Tu as le drapeau croate qui se trouve dans plein d'endroits au sein de la Bosnie, et notamment par exemple devant des centrales électriques, où là il est bien montré que ce moyen de production est sous contrôle de gens qui mettent en avant le drapeau croate en Bosnie, quoi. Donc c'est des signes comme ça qui te font penser que c'est encore en vibration, en tectonique, quoi. C'est... Après, pour en avoir une vision globale et comment dirais-je, objective, apaisée, ou enfin, je sais pas comment dire, c'est pas du tout évident, quoi. T'es aussi beaucoup soumis à l'affect. Ça va dépendre des rencontres que tu fais, et ça peut t'influencer aussi dans dans ton jugement, dans ta manière de voir la chose. Donc c'est quelque chose qui est très riche, mais dont tu peux pas ressortir avec des certitudes, quoi. C'est pas... Par contre, t'as envie d'y retourner, mais...
Ouais, voilà. Stéphane, tu veux...
Non, je veux juste dire que c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec lui. Plus t'en sais, moins t'en sais, déjà. Et plus t'en sais, moins t'en parles. Voilà.
Ouais.
Moi, c'est un peu mon point de vue.
Vous allez y retourner bientôt, justement? Est-ce que,
bah, on
qui
prépare
est prévu,
ça, ouais. On a toujours des liens, on organise toujours un peu, on est toujours avec Dragan. Là, on va peut-être y aller en juin ou un peu plus tard. Bon, en même temps, il y a cet aspect-là à Marseille, mais il y a aussi pas mal là-bas, c'est-à-dire qu'il y a le temps de faire des choses, quoi.
Alors en plus, votre groupe, vous êtes entre la musique traditionnelle, ici, provençale, hein,
ouais, un peu.
Le dub à la provençale, voilà. Un peu, et là-bas, du coup, vous avez fait d'autres connexions qui sont un peu justement dans ces qui circulent un peu entre du trad et
ouais, voilà, il y a une démarche qui est la démarche de notre groupe, et puis il y a... qui a une histoire, qui a une volonté, qui a envie d'aller dans une direction, et puis il y a des éléments qu'on n'a plus ici et qui sont encore vivants là-bas. Et donc ça nous donne des outils d'extrapolation, quoi, d'imaginer les manques qu'il y a entre un folklore qui est, il faut bien le dire, très figé et très, tu vois, très obsolète, quoi. Bon, qui a sa valeur, mais qui est comme un truc, voilà, et une tradition.
Quand tu parles de folklore, tu parles de
bah,
quoi?
Je parle de fifres, tambourins, de trucs, encore une fois, qui sont le témoignage d'une époque donnée, mais qui sont plus en vie, quoi, qui sont plus en vibration. Une musique vivante et tout, qui existe encore en Bosnie-Herzégovine, et même dans les Balkans en général, mais en Bosnie aussi. Et c'est des outils d'extrapolation qui nous permettent, nous, de combler le vide, quoi, que présente cette musique folklorisée, et nos influences aussi, puisqu'on est, on est enfant du siècle, quoi.
Donc... Il y a un groupe que vous connaissez là-bas, que vous connaissez, avec qui vous jouez, hein, je crois.
Ouais, on a fait des trucs ensemble.
Le Mostar Zvezda Réunion.
Ah non, ça c'est autre chose, ouais.
Mostar
Zvezda Réunion, c'est un.
Tu pensais à Vuneni.
Ouais, Vuneni, voilà.
On en parlera plus tard.
Mostar Zvezda Réunion, c'est plus des. Comme un point de référence de la musique traditionnelle vivante de là-bas, qui permet d'avoir justement, si tu le mets en contrepoint de Vuneni, qui donne vraiment deux aspects intéressants, c'est des gens qui habitent la même ville, ou tu vois, deux aspects de la musique telle qu'elle peut être à Mostar maintenant, quoi.
T'as ramené un petit morceau, on va écouter.
On a un petit morceau de Mostar Zvezda Réunion. Ouais.
Kaži majci šta te boli dušo,
Un morceau de Mostar, Vda, Zvda, Réunion, emmené par le groupe d'Equidub, qui a souvent rencontré ce groupe avec qui vous avez joué aussi. On se retrouve tout à l'heure.
Ouais.
On va parler un peu de ces réseaux d'échanges culturels, que ce soit à l'intérieur même du pays, puisque aussi c'est important, mais internationaux. Stéphane, Adeline, Stéphane, toi, quand tu es arrivé, par exemple, on va prendre ton cas personnel, tu es arrivé en Bosnie pour ton projet, tu as été voir, parce que j'ai envie de parler aussi d'un centre, André Malraux aussi, qui est un peu aujourd'hui, dont on a fêté l'anniversaire, tu as été voir ce centre, André Malraux, tu as été voir l'ambassade de France. Quelle est la place de l'ambassade de France, justement? Elle n'est pas si importante que ça, je crois.
Pour remettre les choses dans l'ordre, je suis allé là-bas parce que j'étais invité par l'ambassade de France. On m'a demandé de faire une mission d'audit, j'aime pas trop ce terme, mais bon, donc de rencontrer des gens là-bas à l'invitation, donc missionné par l'ambassade. Donc finalement, ils servent un peu à quelque chose parce que c'est un peu eux qui ont initié ma venue là-bas et c'est un peu une suite logique. Je disais tout à l'heure que ce projet qui se déroule depuis 2 ans maintenant, mais c'est finalement quand même eux qui m'ont fait venir et m'ont donné la possibilité d'être sur place, de rencontrer d'autres gens, des privés comme Edin Zubcevic, qui est le directeur de Gramophone, qui est la maison de disques, ou label plutôt, de Dubioza, mais qui collabore également avec Vuneni, avec beaucoup d'autres gens, avec Sictor aujourd'hui, qui sont un ancien groupe de rock qui revient, et avec beaucoup d'autres privés sur place avec qui j'ai tissé des liens. Donc oui, on peut minorer en effet le rôle de l'ambassade du service culturel, mais ils peuvent aussi servir
aussi
de catalyseur, par exemple.
Voilà. De connexion.
Après, le centre Malraux, c'est encore autre chose. C'est un peu une forme d'incarnation de la francophonie, peut-être plus que le service culturel, enfin que l'ambassade de France là-bas, parce que les gens des ambassades, on le sait, restent en général 2-3 ans sur place, puis s'en vont. Alors que le cas du centre Malraux, qui est un peu particulier, avec son directeur charismatique Francis Bueb, qui est arrivé pour monter une librairie dans Sarajevo assiégée en 93, est resté là-bas. Et ça fait 11 ans qu'ils sont actifs, 10 ans maintenant, puisqu'on a célébré les 10 ans à Pompidou dimanche dernier. Oui, c'est quelqu'un d'important, qui symbolise quelque chose d'important, en tout cas, qui symbolise une forme de résistance culturelle.
Mais dans le pays ou pour nous en France ?
Peut-être plus pour nous en France que là-bas. Ouais. Ouais. Mais il est vrai que tout Français impliqué dans la culture, ou presque, qui est allé faire des choses à Sarajevo, est passé dans le bureau de Francis Bueb et du centre Malraux. Adèle, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça.
Si, si, je crois qu'on est tous passés par là d'abord, et puis on est reparti pour faire autre chose, et puis on y revient. Enfin, ça.
Alors, quelles sont les connexions importantes dans le pays, que ce soit pour des Français qui veulent aller faire des choses là-bas, mais on va parler surtout pour les artistes du pays. Quels sont les réseaux incontournables ? Est-ce qu'ils sont nombreux ? Est-ce qu'ils ne sont pas nombreux ?
Il y a une chose à préciser, je crois, je vais laisser la parole à Adèle là-dessus, parce qu'elle est active là-bas depuis 4 ans, donc elle sait de quoi elle parle, mais c'est qu'il est très délicat, voire impossible, de monter un événement culturel sans un appui de la communauté internationale et des ambassades. Un événement, pour exemple, du Jazz Festival, s'il n'a pas le support des différentes ambassades, que ce soit la France, les États-Unis, l'Allemagne, la Suède, Pro-Helvetia, les Suisses, etc., ne peut pas exister. Voilà. Donc je crois qu'il reste quand même des éléments malheureusement incontournables de la bonne santé, ou de la santé simplement, de la scène culturelle de Sarajevo et du pays, quoi.
Pour toi, Adeline,
ce que Stéphane dit là, c'est tout à fait juste, et c'est une réalité encore en Bosnie. Il dit malheureusement, parce qu'on pourrait vouloir une indépendance pour ce pays-là. Et effectivement, le fait que la communauté internationale et les associations internationales aient autant de poids et d'importance, et ils tiennent un peu les choses en main avec l'argent, hein, comme toujours. C'est vrai que ça enlève pas mal d'indépendance au pays, au niveau de son développement culturel, aussi bien que le reste, économique, politique et tout ça. Malheureusement, et en même temps pas malheureusement, parce que finalement je crois qu'il y a tellement peu d'intérêt des politiques locaux, je crois qu'il y a une classe politique, il y a une bande d'apparatchiks là-bas qui bloquent tout, quoi, et ils ont absolument aucun intérêt pour la culture, et ils y connaissent rien, et effectivement c'est sûr qu'ils peuvent pas aider des gens comme Dieu Bioda Collective, parce qu'ils comprennent pas, quoi, et ça les intéresse pas. Alors ils font des grosses manifestations un peu pompeuses, de très mauvais goût, qui coûtent très cher et tout ça, mais c'est absolument kitsch et ça n'a aucun intérêt. Mais c'est ce qu'on appelle le mainstream en ce moment. Alors ça veut pas dire que le ministre. Bon, il y a aussi peu de budget. Et ça, c'est aussi bien le fait des institutions locales que des institutions internationales. Ça arrive aussi aux institutions internationales d'obliger le ministère de la Culture à réduire son budget, par exemple, ce qui est complètement incroyable. Ceci dit, il y a aussi des événements très intéressants qui sont financés par les institutions aussi bien locales qu'internationales, comme les quatre festivals principaux de Sarajevo. Mais bon, c'est le Sarajevo Film Festival, c'est le MES, c'est le Zima,
Depardieu qui est venu,
etc.
Il y a pas longtemps.
Donc c'est bien, c'est intéressant, c'est un certain niveau culturel. En même temps, on peut se demander si c'est normal que tout l'argent passe là-dedans, parce que c'est vraiment trop. C'est pas du tout élitiste, je pense, mais c'est. C'est trop évident.
Ça marche au symbole un peu,
ouais,
quand même. Et une histoire, par exemple, j'ai eu l'occasion de rencontrer le ministre de la Culture là-bas, et ben, je peux le dire parce qu'on est en France, mais il y a une bonne partie du budget de la culture qui a été coupée pour pouvoir être mis dans l'espoir de rentrer dans l'Europe. Ce qui fait que le peu d'initiatives culturelles qui essayent de se débattre dans tout cela se retrouvent brimées, voire anéanties. Voilà. Et que des initiatives, de bonnes initiatives privées finissent à l'eau, quoi, très vite. Voilà, je pourrais donner plein d'exemples, mais on n'a pas trop le temps, puis on a beaucoup d'invités, mais c'est un vrai problème.
Il y a des choses assez hallucinantes. Là, il n'y a pas longtemps, je voyais la statue de Bruce Lee à Mostar pour symboliser, essayer de rassembler un peu les différentes communautés. C'est hallucinant.
Ils ont fait un sondage, je crois. Adeline, qui vient de Mostar, va en parler très bien.
Ce qui est intéressant avec Bruce Lee, ça permet d'ouvrir un peu ce dont on parlait un instant. Effectivement, tout est bloqué et c'est très difficile de faire des choses. Et en même temps, moi, c'est l'expérience que je tire après 4 ans là-bas. Tout est possible et on peut tout faire. Et il disait tout à l'heure, Almir, qu'effectivement, y a un potentiel énorme. Il y a un vrai potentiel. Et Bruce Lee, c'est un exemple parfait du fait que tout est possible, puisqu'on peut avoir une statue de Bruce Lee toute dorée, en plein cœur de Mostar. Je crois que, bon, et même des projets comme ce que j'ai monté, c'est avec quasiment rien comme moyen, ça montre qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont possibles. C'est beaucoup une question d'énergie, de volonté. Et ça, c'est peut-être ce qui manque à une nouvelle génération dans son ensemble. Hein, parce qu'après, il y a bien sûr des exceptions. Et c'est celles qu'on voit et qu'on a ici ce soir.
Et pour que les gens comprennent pourquoi Bruce Lee, je crois qu'il y a eu un sondage en fait, pour savoir quelle était la personnalité qui pouvait incarner la paix et qui soit, disons, comment dire, accepté des deux bords.
Un peu de tout le monde.
Voilà. Et c'est Bruce Lee qui est sorti du chapeau. Sachant que il faut savoir aussi que le bronze de Bruce Lee était saccagé la semaine dernière.
Ah. Le soir même.
Le soir même.
Quelques
heures
plus tard. Je vais voler le bronze de la cage.
Almir, tu voulais intervenir. Pardon. Vedelan.
Zapravo ta simpatična priča Bruce Lee ilustruje nešto što ima puno teže posljedice.
L'histoire très sympathique autour de Bruce Lee a beaucoup de retombées. Nisam razumio.
Mislim, ta priča, ono, iako je simpatična, ima stvar puno, ono, background, ono, pozadina je zapravo puno, puno crnja nego što je priča.
L'arrière au fond est beaucoup plus noir que l'apparence qui a été présentée par la presse. L'arrière au fond.
L'arrière au fond est beaucoup plus noir que ce qui a été présenté. Enfin, on a montré ça un peu comme une plaisanterie. En fait, c'est beaucoup plus grave que ce qui en paraît.
L'arrière au fond, c'est complètement noir. Oui. La base de l'histoire de Bruce Lee, de la statue de Bruce Lee à Mostar. La base, elle est complètement noire. C'est autre chose que la réalité. Vous la connaissez pas?
Non, mais non. C'est intéressant.
Cela priča je zapravo da ta priča Bruce Lee samo govori između ostalo, govori o krizi dubokog identiteta koja vlada u cijeloj Bosni i Hercegovini. Jer mislim, žalosno je da se dva naroda koji žive tako blizu i tako isprepleteno u Mostaru, na primjer, kao i u cijeloj zemlji, mogu složiti jedino oko čovjeka iz Kine. Mislim, njima je zajednički Kinez, a ne...
À la base de l'histoire de Bruce Lee, c'est pour montrer que deux peuples aussi mélangés, aussi qui se touchent d'aussi près qu'à Mostar, comme dans le reste du pays, bien sûr. C'est hallucinant qu'on doit se retourner vers la Chine et montrer un idole comme Bruce Lee qui est en Chine aussi loin qu'en Bosnie, quoi. C'est
il n'y a pas d'idole possible dans le pays.
Non, mais c'est complètement absurde de parler d'un... Enfin, c'est un petit peu ironique. C'est complètement ironique, ça c'est rigolo. C'est un petit peu ridicule aussi. Da, c'est pour montrer la ridiculité de l'histoire.
Smiješno je to da je grad podijeljen, mislim, žalosno je da je grad podijeljen na istočnu i zapadnu stranu. A smiješno je u cijelom tome sa Bruce Leeom je da su, kad su ga postavljali, nisu mogli da se dogovori na koju stranu će da gleda, pa gleda na sjever. ni na jednu, zapravo.
Alors, c'est très rigolo, parce que, bon, c'est rigolo, mais bon, de l'autre côté, c'est touchant que la ville, elle est divisée en Est et Ouest. Et quand ils ont monté la statue de Bruce Lee, eh ben, ils n'arrivaient pas à tomber d'accord dans quel sens il va regarder Bruce Lee. Donc, du coup, il regarde vers le nord. Et c'est d'où là que, bon... il raconte toutes les blagues et tout ça, que enfin, c'est rigolo, mais à la base c'est très touchant et c'est vraiment dramatique.
Et c'est pas facile du tout.
C'est pas facile, donc la statue de Bruce Lee, ça va plus loin qu'une gag, ce qu'on est en train de raconter.
Merci.
Bye.
Adèle, on revient parce qu'on a peu de temps en fait, on est beaucoup, il y a plein de choses à dire. On va juste parler un peu de ce festival de court-métrage, j'aimerais bien qu'on en parle un peu, savoir un peu, parce que tu m'as dit que la production, donc vous diffusez des courts-métrages essentiellement du pays, de Bosnie-Herzégovine.
Non, malheureusement pas essentiellement.
Pas essentiellement, mais tu aimerais un peu plus et que c'est pas facile justement parce qu'il n'y a pas tant...
La production... cinéma et vidéo en Bosnie-Herzégovine, elle est assez faible. Enfin, surtout cinéma, parce qu'il y a quand même, et ça c'est le bienfait de la modernité, les petites caméras DV, elles aident quand même beaucoup les jeunes à pouvoir s'exprimer à moindre frais, ce qui ne fait pas forcément la qualité. Bon, après, et pas forcément non plus à cause du format vidéo. Je crois qu'il y a une crise générale, ils en parlaient, les membres du groupe du Bioza au départ. C'est vrai que c'est une crise de. Une crise d'identité, du coup peut-être une crise d'inspiration aussi. Nous en tout cas, alors est-ce que c'est représentatif?
Ça s'arrange pas,
pas forcément.
Ça va pas un peu en mieux?
Ça s'arrange doucement. Ça dépend des années, en fait. Mais
le dernier festival,
il n'y a jamais de règles là-bas. Tout est contradictoire, ambivalent, etc. Donc nous, pour l'instant, on a toujours reçu beaucoup plus de films des autres pays de l'ex-Yougoslavie, Croatie, Serbie, Slovénie, essentiellement.
Alors le public
que de Bosnie-Herzégovine. Après, le public, au départ, c'est il faut dire que le festival du court-métrage au départ n'a pas été fait beaucoup pour le public de Mostar. C'était plutôt une rencontre de jeunes auteurs de l'ensemble du pays. Et là ce qui est quand même intéressant de dire et pour le public français, qu'il le sache, que tous les problèmes ethniques, entre guillemets, avec des gros guillemets, parce que je supporte très mal, mais bon, c'est comme ça qu'on parle souvent, le terme ethnique. C'est quelque chose qu'on retrouve pas beaucoup dans le milieu culturel, justement, je trouve. Et même si les nationalistes, parmi les nationalistes et ceux qui ont théorisé le nationalisme, il y avait beaucoup de prétendus intellectuels, il y a même des psychiatres et des poètes à parler. Mais je trouve que dans le milieu culturel jeune, il y a très peu de problèmes finalement de nationalisme. Et on le voit bien au niveau, en tout cas nous, du festival du court-métrage, puisqu'on a reçu chaque année à peu près 30 à 40 jeunes auteurs de l'ensemble de l'ex-Yougoslavie. Ils étaient tous toujours très très contents de venir à Mostar, de venir
et de se rencontrer
Mostar,
et d'échanger.
Le sujet, si tu veux, du nationalisme ou des communautés, ben moi je suis croate, ben toi t'es serbe, etc. Machin, ça n'a jamais lieu, quoi. C'est pas de ça qu'on parle, c'est tout autre chose. C'est justement des films. Et je pense qu'au niveau musical, c'est pareil.
Arnaud ?
Ouais, moi je veux pour rebondir sur ce que disait Adèle. Moi j'étais étonné aussi des liens qui existaient encore entre Grosseville et dans la communauté. Bon, je sais pas si on pourrait la qualifier d'underground ou rock'n'roll ou quoi, mais des liens qui existent entre les différents pays et des liens qui survivent, quoi, où un tel connaît toujours quelqu'un qui est peut-être même son cousin en Croatie ou connaît quelqu'un quand il vient de Bosnie, etc. Il y a toujours des liens qui existent de capitale à capitale ou de ville importante à ville importante. Et deuxième chose, une chose que j'avais pas notée en 2001 par exemple et qui est revenue plus souvent comme ça, quoi, pareil comme impression, c'est alors une nostalgie de l'ex de la Yougoslavie, mais alors j'ai pas réussi à faire la part entre la nostalgie un peu, on va dire, pour schématiser, régressive, c'était mieux avant, et parce que maintenant c'est vraiment la merde, ou si c'est vraiment une reconsidération du projet politique yougoslave tel qu'il est. Bon, voilà, ça, il faudrait... Mais j'ai noté ce truc par rapport à 2001, et juste pour finir, et ce truc-là aussi, beaucoup plus de gens s'exprimaient sur la guerre, en disant quel gros malheur, on a été manipulé par des politiciens, chose que je n'avais pas entendue en 2001 par exemple. Voilà, c'est des impressions comme ça, fugitives. Et encore une fois, pour revenir sur cette circulation d'informations, de connaissances qui se font toujours à titre d'anecdote, par exemple à Sarajevo, très vite, quand on a joué, il y avait le concert de Jamiroquai, beaucoup de gens étaient là, des gens de Dubrovnik, des gens de Sarajevo, des gens de Mostar, etc. Et des gens qui étaient contents de se voir, venant de différents pays, de se parler, etc. Alors voilà, quoi, c'était encore une fois des impressions, des choses comme ça que je...
C'est une discussion qu'on a eue l'autre soir, Adeline, c'est que ceux qui veulent en tout cas ne pas faire fi de toutes ces différenciations et de toutes ces frontières, on les entend pas en tout cas. Ils sont pas vraiment représentés finalement.
Ben, je ne sais pas.
Stanislas Demidjuk, merci d'être venu déjà. Désolé, on a peu de temps. On va, Arnaud parlait de cette Yugo...
Nostalgie.
Nostalgie. Tout à l'heure, vous m'avez envoyé un message en me disant « Je suis Yugo nostalgique ». J'aimerais que vous précisiez un peu pour vous, qu'est-ce que ça veut dire exactement.
Bon, je suis né en Yougoslavie, à Zagreb, en 1946. Donc, j'ai quitté le pays très jeune à cause de tous les problèmes politiques avec ma famille. On n'était pas anticommuniste. Mon père était staliniste. Donc, vu la scission entre Staline et Tito en 1946-1947, les communistes stalinistes étaient obligés de partir. Donc, je reste communiste aujourd'hui, comme j'étais depuis toujours, jusqu'à la fin de ma vie, certainement. Donc, ça explique un petit peu ce côté yougo-nostalgique. Toutes les yougo-nostalgiques ne sont pas forcément nostalgiques de le communisme, mais il faut comprendre que l'expérience yougoslave, d'un point de vue historique contemporain, c'est unique au monde. Dans le monde communiste et socialiste, la Yougoslavie était unique au monde. Et pour ceux qui croient toujours dans la possibilité de changement radical de notre société vers un vrai socialisme, la Yougoslavie était le plus proche de ce rêve. Donc, la nostalgie, ça, il y a pour nous, les je me situe comme un intellectuel de l'extérieur du pays, mais qui a toujours soutenu cette Yougoslavie-là parce que je suis communiste. Et donc, pour moi, c'est particulier vis-à-vis d'une interprétation politique. Mais quand tu parles avec les gens sur place, je reviens chaque année, j'ai toujours la famille là-bas. Ma mère est de Castellet, de Dalmatie, donc Dalmatinska. Et donc, je reviens tous les ans, etc. Et qu'est-ce que j'entends dans les couloirs si Tito était toujours vivante. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, la réalité pour le peuple yougoslave pendant les régimes, la situation était mille fois mieux que c'est aujourd'hui. C'est le bordel total avec un avenir qui est totalement noir. On sait pourquoi, c'est un problème politique, etc. Donc, tu as la nostalgie d'un pays qui était mieux avant qu'aujourd'hui pour la plupart du genre. C'était jamais parfait, bien sûr pas. Mais vu la situation aujourd'hui, c'était presque le paradis. Donc, il y a ça. Mais pour les gens qui sont politiquement orientés, pour les gens qui sont très intéressés dans l'évolution de le socialisme dans notre monde, la Yougoslavie est unique. On n'a pas le temps d'exprimer tout, mais il y a énormément de points sur lesquels la Yougoslavie était unique dans sa démarche politique. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir sur place... Les réactionnaires de tous les bords, soit croates, serbes ou bosniens, ils sont tous en train d'effacer l'histoire de la Yougoslavie socialiste. Il ne faut pas les laisser faire. Et ma mission à moi, c'est ça. De maintenir ça. Je m'identifie toujours comme yougo-nostalgique, y compris là-bas. C'est très mal vu par les réactionnaires. C'est très bien vu par les gens qui n'osent pas de les dire eux-mêmes. Je cite le fait que j'étais membre de Cyber Yougoslavie de 1975. Oui. Cyber Yougoslavie existe depuis très longtemps. Ça veut dire les gens qui sont nostalgiques de ça, mais qui sont prêts de dire nous sommes toujours yougoslaves. Et je le rencontre tous les jours. Hein. Il y a plus en plus de gens qui disent aujourd'hui. Il faut parler de l'expérience de Café Tito à Sarajevo. C'est une expérience extraordinaire.
Il y a beaucoup de choses à dire. Désolé, parce que Vincent Delpech est là. On a juste une petite... on va juste terminer avec Vincent, pardon.
Je serais quand même relativement d'accord pour que monsieur puisse continuer. C'est beaucoup plus intéressant
On retrouvera Stanislas sur le plateau de l'Alcazar.
Stanislas sera là samedi à l'Alcazar sur l'avenir de la Bosnie. J'aimerais juste que tu nous parles un peu de ton documentaire que tu as tourné
en fait,
là-bas.
C'est un peu fait comme pour Daki Dub. C'est une rencontre complètement fortuite avec la Bosnie-Herzégovine qui a donné lieu à... beaucoup d'enregistrements, que ce soit à Sarajevo ou à Mostar, sur environ 2 ans. Et puis ensuite aussi en France, avec des gens qui ont beaucoup travaillé, comme Adèle, sur le terrain. Donc là, Adèle serait peut-être bien mieux placée que moi pour parler de toute l'expérience Abrashevich, en ce moment, qui est le centre pour la jeunesse et la culture. Et tout à l'heure, tu m'as présenté en disant que j'étais à l'initiative du Media Center. Bon, en fait, c'est une confusion, parce que ça, c'est un projet qui est... qui est en germe depuis déjà 1 ou 2 ans, Adèle, je ne sais pas, ça doit être ça, 2 ans, et qui est en fait de proposer un média d'information alternative à Mostar. Et donc, moi, quand j'ai rencontré cette ville la première fois...
Désolé, mais on doit se quitter. On va finir sur le générique avec un morceau de Daiki Dub qui est ici avec nous ce soir. Et on est obligé de rendre l'antenne puisque RFI va faire son journal. Merci beaucoup à tous et à toutes, et passez une bonne soirée.